Chapitre 21. Lorsqu'elles eurent atteint le fond de la grande salle, Magda regarda autour d'elle, pour s'assurer que les gens vaquaient à leurs occupations et ne s'intéressaient pas aux siennes. L'inspection étant satisfaisante, Tilly et sa maîtresse s'engagèrent dans le passage. Du même style que celle des plus somptueux endroits de la forteresse, cette arche enchâssée dans la muraille se révélait bien plus petite et bien plus intime. Pas plus haute que Magda, les deux colonnes à cannelure qui la flanquaient soutenaient un entablement qui servait lui-même de support à une double arche décorée d'une mosaïque aux motifs géométriques. Les deux bancs latéraux arboraient les mêmes ornements, assurant l'harmonie architecturale de l'ensemble. Ces sièges laissaient penser que les visiteurs, avant de continuer leur chemin, prenaient le temps de s'asseoir pour reconsidérer leurs décisions, ou se reposaient tout simplement avant de se soumettre à une terrible épreuve. À vrai dire, les grandes statues à la mine sinistre et aux poses tourmentées qui flanquaient la partie arrière de cette entrée donnaient plutôt envie de rebrousser chemin. Rien d'étonnant puisqu'elles étaient conçues pour ça. Une façon d'avertir les curieux qu'on n'entrait pas ici à la légère. Car franchir ce seuil revenait à s'aventurer dans le domaine des morts. Sans réfléchir ni reprendre son souffle, Tilly s'engouffra dans le passage obscur. Magda la suivit, la lumière de sa lanterne révélant qu'elles entreprenaient la descente d'un escalier de pierre aux marches assez larges pour que deux personnes avancent de front. « Tu viens souvent ici, Tilly ?»«
Non, maîtresse, seulement quand un sorcier ou une magicienne demande que je nettoie un endroit spécifique. Certains aiment que leur chambre soit bien rangée. La plupart cependant détestent qu'on vienne fouiner sur leur lieu de travail. En ce qui concerne les salles communes, une équipe de nettoyage s'en occupe. »
Magda étudia la balustrade soigneusement entretenue. Faire en sorte que leur dernière demeure soit agréable pour les visiteurs était en somme une marque de respect pour les morts. Alors que les marches conféraient une certaine grandeur à l'escalier, les murs et le plafond creusés à même la roche faisaient penser plutôt à un puits. Palier après palier, les deux femmes s'enfoncèrent dans les entrailles de la terre sans jamais passer devant un couloir latéral ni apercevoir une porte ou une alcôve. Après une très longue descente, les deux compagnes débouchèrent dans une grande caverne artificielle creusée elle aussi à même la roche, comme en témoignaient les marques d'outils encore visibles sur les murs. À part le sol joliment carrelé, les finitions brillaient par leur absence. Au centre de la grotte, sur une table en bois verni, un vase très simple contenait des lilas blancs. Sur tout le périmètre de la caverne, des ouvertures permettaient d'accéder à d'autres salles. Magda compta 9 entrées dépourvues de tout ornement, à l'exception d'un symbole gravé dans la roche. Sans hésiter, Tilly pénétra dans la 9e salle. Un chiffre, Magda tenait cette information de Baracus, qui jouait un rôle très important dans tout ce qui était lié à la magie. Les murs de la petite antichambre se révélèrent tout aussi bruts que ceux de l'escalier et de la grotte précédente. En guise d'antichambre, il s'agissait en fait d'un palier, car de nouvelles marches apparurent devant Magda et Tilly. Taillées dans la pierre, elles se révélèrent irrégulières et glissantes, forçant la jeune femme à avancer très prudemment. Au terme d'une très longue descente, le sol redevint presque plat et la nature de la roche changea, le calcaire cédant la place à du grès. Alors que des tunnels partaient dans toutes les directions, Tilly, sans hésiter, choisit le plus large qui s'ouvrait directement en face des marches. Dans ce corridor, les deux femmes passèrent devant plusieurs arches, Tilly gardant le regard bien droit devant elle. Magda céda à la curiosité et vit aussitôt les tombes. Dans chaque salle ronde, des niches murales contenaient des restes humains. Au minimum ceux d'un seul corps et très souvent deux ou trois. Très probablement des parents qui reposaient pour l'éternité dans le silence et l'intimité de la terre. Magda ralentit pour mieux observer les chambres funéraires. Dans les plus grandes, les niches murales superposées occupaient tout un mur haut d'une quinzaine de pieds. Pour accéder aux dernières, il fallait une échelle, supposa la jeune femme. Dans les alvéoles de ces étranges ruches, les défunts reposaient pour la plupart dans des linceuls si secs et si poussiéreux qu'on aurait pu facilement les confondre avec le grès des murs. De rares niches contenaient des cercueils de pierre sculptés recouverts de gravats et prisonniers d'un véritable réseau de toiles d'araignées. Un peu plus loin, Magda commença à voir des niches remplies d'ossements blanchis par le temps. Ici, et sans doute pour gagner de la place, on avait choisi de ranger les vestiges humains par catégorie, les crânes avec les crânes, les tibias avec les tibias. Très anciens, ces tombeaux étaient abandonnés depuis des décennies, si ce n'était des lustres.
Ce sont les plus vieilles sépultures, dit Tilly. Pour gagner de la place, on a maximisé la méthode de rangement. Au fil des siècles, il a fallu sans cesse étendre les catacombes afin qu'elles puissent accueillir tous les défunts. Les travaux d'excavation sont toujours en cours. La plupart des gens que nous avons vus en haut finiront ici, dans le silence et la paix.
Sur presque toutes les niches, en tout cas les premières, le nom d'une famille ou le titre d'un notable restait encore inscrit dans la pierre. Parfois, des motifs mystérieux, gravés par la main maladroite d'un parent ou d'un ami, saluaient la mémoire du ou des défunts. Beaucoup de gens tenaient à inhumer les membres de leur famille afin de pouvoir leur rendre visite. Mais tout le monde ne partageait pas cette façon de voir les choses. Les parents des personnes célèbres, par exemple, préféraient la crémation, car ils redoutaient que la dépouille devienne un sujet de curiosité ou un objet de mépris pour les rivaux du cher disparu. Magda avait choisi de faire incinérer l'enveloppe corporelle de Baracus. Un rite funéraire, selon certains, qui libérait l'esprit de son carcan de chair et facilitait son voyage jusqu'au royaume des morts. À l'inverse, beaucoup de gens ne supportaient pas l'idée qu'un être aimé soit réduit en cendres. Aux yeux de Magda, l'enveloppe vide n'était pas vraiment l'homme qu'elle avait adoré. Celui-ci, espérait-elle, devait être à l'abri parmi les esprits du bien. La réalité l'ayant contrainte à choisir, elle avait préféré détruire son corps par le feu que le laisser lentement pourrir en terre. Le tunnel s'élargissant, Magda et Tilly purent de nouveau y avancer de front. Après une très longue descente vers le cœur même de la terre, en passant devant des milliers et des milliers de morts, elles finirent par déboucher dans la partie la plus récente des catacombes. Ici, les linceuls étaient toujours d'un blanc immaculé et fort peu de poussière les recouvrait. Fixées à des supports déjà rouillés, des torches éclairaient ce secteur du domaine des morts, rendant les lanternes inutiles. Du coup, Tilly éteignit la sienne.
« Ici, dit la vieille femme, des sorciers et des magiciennes travaillent près des endroits où dorment les morts. »
Magda se souvint que Tilly, des semaines plus tôt, lui avait confié que les sorciers travaillaient avec les morts. Cette idée lui déplaisant au plus haut point, la jeune femme préférait ne rien imaginer de ce qui pouvait se passer ici. Aussitôt arrivées, les deux femmes captèrent des échos de voix. Puis, elles rencontrèrent des gens, la plupart trop pressés pour leur accorder une once d'attention. De ci de là, par petits groupes, des sorciers et des magiciennes débattaient avec passion de formules magiques ou d'interprétations des prophéties. Ici, toutes les salles n'étaient pas des tombeaux. Creusées à même la roche comme les autres, ces ateliers, d'un genre très spécial, étaient parfois éclairés par des torches, mais beaucoup plus souvent par des globes lumineux. Dans certaines pièces sans lumière, Magda reconnut des toiles de vérification en lévitation dans l'air. Massés autour de ces constructs scintillants, des sorciers les étudiaient pensivement en désignant des éléments bien distincts. Alors que certaines de ces toiles bourdonnaient, d'autres étaient aussi silencieuses que la mort. Magda et Tilly passèrent aussi devant de gigantesques bibliothèques, dont les étagères frôlant la voûte ployaient sous le poids des grimoires. Grâce à Baracus, Magda savait que ces ouvrages terriblement dangereux n'étaient pas à mettre entre toutes les mains. Les plus redoutables avaient d'ailleurs été transférés dans le temple des vents. Assis à des tables, des hommes et des femmes lisaient, le front plissé, tandis que d'autres, marchant sur la pointe des pieds, cherchaient dans les allées le livre dont ils avaient besoin. Magda et Tilly passèrent aussi devant plusieurs portes fermées. En une occasion, les vifs éclairs qui filtraient de l'encadrement du battant firent supposer aux deux femmes qu'une tempête se déchaînait derrière.
« Par là !»
dit Tilly en désignant un couloir sur sa droite. Le très long corridor se révéla très différent de tous ceux que Magda avait vus ou descendus. Très large, son plafond plat et non voûté et ses murs parfaitement droits, le passage désert et silencieux avait quelque chose d'oppressant. Alors qu'elle s'y enfonçait, Magda sentit tous les petits poils de sa nuque se hérisser. Une grande arche s'ouvrait au bout du passage. Assez curieusement, compte tenu de la solennité des lieux, elle était fermée par une simple tenture ornée d'un motif géométrique aux couleurs ternies. Tilly s'arrêta devant l'arche.
« Tu vas devoir continuer seule, maîtresse, »
Pourquoi ?
Tilly désigna la tenture.
Les sorciers pour qui je travaille parfois, ceux qui m'ont parlé de la spirite, m'ont averti que je ne devais pas dépasser cette arche. Au-delà, seuls les détenteurs du don sont autorisés.
Mais je n'ai pas le don.
Tu es Magda Cyrus. Être l'épouse du premier sorcier t'a valu des responsabilités que les femmes normales ignorent, mais en compensation, tu as aussi gagné des droits dont sont en principe privés les profanes.
Malgré les assurances de Tilly, Magda n'aurait pas parié qu'elle allait être bien reçue. Perdre ainsi sa compagne n'avait rien de rassurant, d'autant plus qu'elle ne s'y était pas attendue un instant. Tilly sortit de sa poche une feuille de parchemin pliée et la tendit à Magda.
« Une amie m'a donné ce plan. Une amie en qui j'ai toute confiance. Je vais te montrer l'itinéraire à suivre. Concentre-toi, sinon tu risques de te perdre. Quand tu atteindras une arche fermée par une tenture rouge, tu seras arrivé. Derrière, à ce qu'on dit, tu rencontreras une aveugle nommée Isadora. C'est elle qui s'occupe de la spirite. Je ne la connais pas, mais d'après ce qu'on dit, si sa maîtresse veut bien te voir, Isadora te conduira à elle. Cela dit, il se peut que la spirite refuse de te recevoir. Sa fonction est d'aider les sorciers et les magiciennes à voir dans le royaume des morts, pas d'accorder des audiences privées. Tu seras peut-être venu pour rien.
Tilly, c'est toi qui m'as conseillé de consulter cette femme, sans savoir si elle accepterait de me voir.
Tu es la femme du premier sorcier qui réside désormais dans le royaume des morts. Sans pouvoir le jurer, j'ai supposé qu'elle ne te fermerait pas sa porte.
Un peu penaude et pas sans raison, Tilly tenta de se racheter en prodiguant ses conseils à Magda.
Si tu parles à la spirite, elle devra s'immerger dans le royaume des morts pour trouver ce que tu cherches. À ta place, je réfléchirai bien aux questions que je veux poser.
Je comprends.
Se demandant si le jeu en valait la chandelle, Magda baissa les yeux sur le plan couvert de lignes et de flèches.
Tilly, merci de m'avoir guidé jusque-là.
Si la spirite te reçoit, j'ai cru comprendre qu'elle te garderait assez longtemps. Avec ta permission, je vais m'en retourner là-haut, si je ne me présente pas à mon travail.
Un bon prétexte pour ne pas avouer que cet endroit lui donnait la chair de poule. Mais comment Magda aurait-elle pu blâmer son amie alors qu'elle se sentait tout aussi peu rassurée?
Bien sûr, bien sûr. Tu en as déjà assez fait. Tu peux y aller. Tout ira bien pour moi.
Tu retrouveras ton chemin à partir d'ici?
Oui, ne t'en fais pas pour ça.
Tilly tapota gentiment le bras de Magda.
Je te souhaite bonne chance, maîtresse. Puisses-tu trouver les réponses que tu cherches et avoir enfin le cœur en paix.
Doutant d'avoir un jour le cœur en paix, Magda acquiesça cependant. Au minimum, elle avait la ferme intention de trouver des réponses.
Sois prudente, maîtresse.
Que veux-tu dire?
On raconte que la spirite est une femme dangereuse.
Dangereuse?
Oui, parce qu'elle fraye avec les morts.
Magda soupira, puis saisit la tenture d'une main.
Je ferai attention.
Tilly se détourna, remonta à la hâte le couloir et disparut à une intersection. Debout devant la tenture décorée d'un motif géométrique, Magda consulta de nouveau le plan. Peu convaincue, elle se demanda s'il n'était pas préférable de faire demi-tour. Mais comment continuer sa quête si elle ne s'accrochait pas à sa dernière chance?
Si près du but. Il aurait été absurde de renoncer, pas vrai ?